Le rôle de la France va être absolument crucial.
C'est la réponse préférée des économistes.
Madame, il ne faut pas dire des mots comme ça.
Il n'y aura pas d'indépendance énergétique.
La vie est triste, elle est moche.
Non.
Vous nous mettez la pression tout de suite, c'est bien.
Thank you very much, merci beaucoup.
Moi, je suis ouvert au débat.
Déjà, il y a un temps de parole déjà distribué.
Ouais, bah, et puis c'est bon.
Merci, Madame la Ministre.
Thank you for the economy here on this wonderful festival of economics.
La recherche économique n'est pas brillante sur beaucoup de sujets, en vérité.
Bonjour, vous écoutez EcoGeco, le podcast des Journées de l'économie. Après 2 ans de discussion, les représentants du Conseil de l'Union européenne et du Parlement européen se sont accordés, non sans peine, sur une réforme du pacte de stabilité, ce samedi 10 février 2024. En novembre dernier, un panel d'intervenants interdisciplinaires se réunissait afin de présenter au public des GECO les tenants et les aboutissants de cette réforme. Pourquoi une réforme des règles budgétaires est-elle nécessaire? Comment se mettre d'accord sur des règles communes avec une telle différence entre les modèles de croissance européens? Quelles limites cette réforme présente-t-elle? Un débat passionnant qui vous permettra de mieux comprendre les enjeux de ce pacte de stabilité. Bonne écoute!
Bonjour à tous, merci d'être présents aussi nombreux pour ce premier débat de la journée sur la question vers un retour de l'austérité budgétaire et sous-entendu dans toute l'Europe, pas uniquement en France. Pourquoi ? Les règles budgétaires européennes, dont les fameuses limites de 3% de déficit public et de 60% pour le ratio de la dette publique des États sur le PIB, qui sont les deux cibles les plus connues, sont de nouveau au centre du débat public en cette fin d'année 2023. L'Union européenne, en effet, discute en ce moment de leur réforme, la réforme de ces règles, depuis qu'elles ont été suspendues temporairement dans le contexte de la pandémie de Covid-19, donc en mars 2020, pour permettre aux États de répondre budgétairement et largement à la crise économique et sociale qui se profilait pour toutes les populations. Donc cette clause de suspension arrive bientôt à échéance, et la Commission a annoncé depuis novembre 2022 son ambition de réformer ces règles budgétaires pour les adapter davantage à la situation de chaque pays. Donc la série de réformes qui synthétise cette proposition de la Commission a été officiellement publiée et proposée en avril 2023, donc en avril de cette année. Donc certains, par exemple dès l'année 2021 et encore dans le contexte de la pandémie, par exemple Olivier Blanchard qui en avait publié une proposition dans la revue Le Grand Continent, plaidait notamment pour les rendre plus flexibles, pour la prise en compte de davantage de critères et pour évaluer la situation des États, en passant de règles rigides à des standards qui soient plus adaptés à la situation économique et budgétaire de chaque État. Donc l'apparition également de la question des investissements stratégiques est nécessaire à la fois face à la crise climatique, face à la transition numérique, mais aussi aux transformations géopolitiques comme la guerre en Ukraine qui demande des investissements, a rendu d'autant plus actuelle et urgente la question de la réforme de ces règles des budgets de l'État, qui, il faut le dire, essuyait des critiques depuis déjà de nombreuses années. Donc pour discuter de cette question, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui deux économistes, mais aussi un juriste et un historien, qui vont nous permettre d'éclairer tous les aspects de cette question fondamentale et très actuelle en termes d'agenda politique. Donc Sébastien Adalid, qui est professeur de droit public à l'Université de Rouen, Andreas Heils, qui est économiste, chercheur en politique économique européenne à l'Institut Jacques Delors, Dorothée Rouzet, chef économiste de la Direction générale du Trésor, et Laurent Varlouzet, professeur d'histoire européenne à la Sorbonne Université. Donc, pour ce premier tour de table, tout de suite, je me tourne vers Dorothée Rouzet pour vous poser la question, tout simplement en tant que chef économiste de la DG Trésor, comment vous envisagez cette réforme en cours? Est-il encore possible d'en faire un succès, puisqu'elle est déjà le temps file et elle est actuellement en discussion assez musclée entre les États membres de l'Union européenne? Donc, et pouvez-vous nous expliquer également la position de la France sur ce point et dans cette réforme?
Merci, bonjour à tous. Donc peut-être pour commencer, en fait, je vais revenir sur pourquoi on fait cette réforme, mais si vous avez un peu abordé les choses. En fait, si on revient à pourquoi on a des règles budgétaires communes dans une union monétaire, ce qui est un peu le principe de base, je dirais il y a peut-être trois objectifs qu'on devrait avoir. Le premier, alors qui est celui qui était bien identifié par les règles précédentes, donc celles qui ont été désactivées depuis la crise du Covid, qui est en fait d'assurer une discipline des finances publiques dans un contexte où en fait on est dépendant les uns des autres, c'est-à-dire que comme on a la même monnaie, en partie, on partage, je dirais, notre crédit et notre crédibilité auprès des marchés financiers. Donc, si un pays laisse filer son déficit, en partie, ça a des répercussions sur les autres parce qu'il est un peu protégé par l'union monétaire. Donc, c'est d'éviter un peu ce risque qu'on arrive à chacun essayer de faire plus de déficit sur le dos des autres, pour le dire un peu crûment. Mais il y a d'autres objectifs que devraient avoir des règles budgétaires et qui, pour le coup, n'étaient pas assez présents dans les règles précédentes. D'une part, c'est de permettre à la politique budgétaire d'être ce qu'on appelle contracyclique, c'est-à-dire, en gros, quand on a moins de croissance, quand on a des revers économiques, de permettre de déployer davantage la politique budgétaire pour soutenir l'économie. Et on a vu pendant la crise de la zone euro qu'on a eu un peu le contraire, c'est-à-dire que les pays les plus touchés, en fait, ont dû consolider leurs finances publiques de manière assez drastique, avec pour résultat, en fait, d'affaiblir la croissance, ce qui, évidemment, n'est pas le plus efficace. Et puis, au niveau de la zone euro dans son ensemble, on devrait avoir aussi un objectif que ces règles nous permettent d'atteindre, je dirais, le sentier de croissance le plus élevé possible, sans créer de déséquilibre par ailleurs, c'est-à-dire, notamment, de privilégier les investissements qui nous permettent à la fois d'être plus productifs, de réaliser la transition écologique, de soutenir les priorités de long terme, et donc d'avoir des règles aussi qui incitent à faire ces investissements plutôt qu'éventuellement d'autres types de dépenses qui sont pas moins utiles, mais moins propices à nos objectifs de long terme. Donc là-dessus, les règles actuelles qui sont un peu obsolètes, et elles avaient des défauts qui étaient bien identifiés. Donc le premier, comme je le disais, c'était le caractère non pas contracyclique mais procyclique et assez automatique, c'est-à-dire que quand on avait moins de croissance, que du coup la dette, parce que comme on parle toujours de ratio dette sur PIB, donc si on a moins de PIB, le ratio de dette s'envole et on demande des efforts supplémentaires qui affaiblissent encore le PIB, ce qui ne marche pas évidemment. Et peut-être le deuxième gros défaut, c'est qu'elles ont vraiment été conçues dans un monde différent, dans un monde où d'abord les niveaux de dette étaient un peu plus uniformes au sein de la zone euro. Là, on arrive, c'est quand même difficile d'appliquer le même type de règle à un pays qui a 120% de ratio de dette et un pays qui en a 60. Enfin, on a quand même besoin d'avoir une certaine différenciation. Et puis dans un monde où on pensait un peu moins aux besoins d'investissement qui sont devant nous, aux besoins colossaux d'investissement pour la transition écologique, pour la défense, pour la transition numérique, aussi pour réduire nos vulnérabilités industrielles, etc. Donc, en fait, les États ont besoin d'investir et ont besoin d'avoir cet espace pour investir. Donc, l'esprit de la réforme et donc les principes qui ont été soutenus depuis le début par la France, c'est d'essayer de remédier à ces défauts par trois grands principes. Le premier, c'est la différenciation des trajectoires budgétaires, c'est-à-dire que selon la situation des pays, en fait, on ne va pas demander exactement la même chose aux pays. Et en fait, c'est aussi ce qui rend la réforme crédible, parce que quand on demande, si on demandait à l'Italie de réduire son ratio de dette de 5 points par an, concrètement, ce n'est pas faisable, donc la règle ne sera pas appliquée. Donc ça, c'est l'exemple un peu extrême, mais de manière générale, d'avoir des trajectoires différenciées en fonction de la situation des pays. Le principe d'appropriation par les États, c'est-à-dire d'avoir davantage de rôle des gouvernements pour proposer leur propre trajectoire, ça répond aussi un peu à la question de la crédibilité, c'est-à-dire que si les règles sont perçues, et notamment par les parlements nationaux et les populations, comme étant imposées d'en haut par la Commission sans qu'on ait vraiment notre mot à dire, en fait, elles finissent par ne pas être appliquées parce qu'on a un déficit d'appropriation démocratique aussi. Donc les règles doivent donner plus de place aux États pour proposer leur propre trajectoire, y compris avec une combinaison d'investissements et de réformes qui soutiennent leurs objectifs de long terme. Et puis justement, le troisième principe important, c'est d'avoir plus d'équilibre entre l'aspect pure finance publique et l'aspect soutien à la croissance, avec la prise en compte des investissements et des réformes qui sont bénéfiques à long terme, et donc de mettre davantage l'accent sur le moyen terme. Donc après, on pourra revenir éventuellement sur les détails de ce qui est envisagé. Dans les grandes lignes, l'idée, c'est de passer à une logique justement de moyen terme où des États proposent des plans à minima à 4 ans, avec une possibilité d'obtenir une extension jusqu'à 7 ans s'ils s'engagent à mettre en œuvre des réformes, des investissements qui correspondent aux priorités communes de l'Union. Alors ça peut être dans le domaine de la transition écologique, de l'éducation, du marché du travail, etc., des investissements et des réformes qui soutiennent la croissance notamment. des trajectoires qui seraient différenciées, donc en tenant compte, comme je le disais, de la situation des États membres, et puis surtout d'essayer d'avoir cet équilibre entre voilà, la soutenabilité de la dette d'un côté et le soutien à la croissance, et notamment parce que on sait bien qu'on a beaucoup d'investissements à faire, des investissements qui ne peuvent pas attendre, notamment dans la transition écologique, et qui en fait seront encore plus coûteux si on attend. Et donc il ne faut pas que les règles limitent notre capacité à engager ces investissements. D'autant qu'il est autant économiquement qu'environnementalement rationnel de les faire maintenant plutôt que d'attendre. Donc voilà un peu les principes, et c'est vraiment les principes que la France a défendus depuis le début. Donc vous posez la question sur l'état des négociations. Alors les négociations sont longues, on a beaucoup discuté, du côté des ministères des Finances, on discute beaucoup entre les Français et les Allemands en ce moment, avec un bon espoir d'aboutir à un accord d'ici à la fin de l'année, même si ça prend du temps. Je dirais les principales lignes de faille dans la négociation, c'est des questions de degré sur ce que je viens de dire, à la fois sur le degré de différenciation dans le nouveau cadre avec les pays dits frugaux qui insistent pour réintroduire notamment des règles numériques uniformes, donc de réduction uniforme, soit du déficit, soit de la dette, soit des deux, qui s'appliqueraient à tous les pays. Évidemment, là, le risque, c'est que si elles sont trop strictes, en fait, ça annule un peu tout ce que je viens de dire sur l'aspect différenciation, adaptation, incitation à faire des investissements. Donc là-dessus, la France est assez vigilante, évidemment. Et puis, l'autre ligne de faille, c'est sur, je dirais, l'équilibre entre le niveau d'ambition de la consolidation budgétaire et les marges de manœuvre qui restent pour financer des investissements. Et là aussi, voilà, l'équilibre entre les deux n'est pas forcément le même selon les pays auxquels on parle. Et là-dedans, l'objectif de la France est quand même bien de préserver la rationalité économique du cadre, c'est-à-dire de ne pas défaire par des addendums les objectifs initiaux de la réforme, qui sont encore une fois plus de différenciation, plus de prise en compte de l'importance du sentier de croissance et des investissements et des réformes, par des critères numériques qui ne sont pas vraiment justifiés par une analyse de c'est quoi la soutenabilité de la dette à moyen terme. Donc encore une fois, ça avance. Donc tout est peut-être parce que je suis relativement optimiste, on a bon espoir d'aboutir à un compromis européen. La position de la France est d'être assez vigilante sur cet équilibre qui est vraiment au cœur des objectifs de la réforme.
Merci beaucoup. Je pense que vous venez de prononcer un mot-clé qui est équilibre, et c'est la question que j'ai envie de poser à Andreas Heils. Comment vous envisagez cette réforme, et est-ce que pour vous cette équilibre savant et entre les différents objectifs semble être conservé?
Merci beaucoup. Je me permets une petite correction au début. En fait, je suis formé en sciences politiques. Donc, en fait, on a même les quatre disciplines ici représentées
encore
sur
mieux.
Le panel. J'aimerais aussi d'abord revenir sur quelques points aussi qui étaient déjà un peu discutés après votre question. Donc, je pense qu'un point qui est très important à répéter, en fait, est la réalité aujourd'hui en Europe, qu'on a une zone monétaire commune, une politique monétaire en commune, mais on a des politiques budgétaires qui restent largement nationales. On a les budgets européens, mais qui est vraiment de petite taille. Et à côté de ça, en fait, le pouvoir budgétaire reste largement aux mains des États membres, qui après demandent ce type de coordination, où on a plusieurs formes de coordination aujourd'hui en Europe. Donc on a ça sur les règles budgétaires ou sur les cadres budgétaires européens. Aussi en termes de ce qu'on appelle une surveillance macroéconomique, notamment sur la procédure par rapport au déséquilibre macroéconomique, et aussi la coordination plus socio-économique avec les semestres européens. Donc on a plusieurs éléments où on essaye au niveau européen, en fait, de coordonner nos politiques budgétaires. Mais ça reste difficile, ça se voit dans la négociation de réforme de pacte de stabilité de croissance. Et c'est lié, je pense que c'est important à dire, à des des différentes visions qui restent importantes dans les différents États membres. Donc je pense qu'aujourd'hui, sur ce panel, même si je viens bien de la France, je pense qu'on va avoir une point de vue assez français sur la question, mais si on aurait cette discussion dans un autre pays, on aurait un point de vue, je pense, assez différent en fait, sur les dysfonctionnements. Je pense qu'il y a un accord sur les dysfonctionnements des règles, mais les raisons pour les dysfonctionnements seraient différentes dans les différents États membres. Et je pense que c'est très important, là, des États membres dans l'Union européenne, notamment dans la zone euro, avec des modèles de croissance très différentes, plus, des fois c'est plus sur la consommation, des fois plus sur l'exportation. On a des visions différentes au niveau national par rapport au rôle de l'État dans l'économie. Donc c'est quoi le rôle que devrait jouer l'État et donc aussi le budget pour gérer la macroéconomie, en fait. Et aussi, finalement, aussi, des différences dans la perception, quel rôle devrait avoir, d'un côté, des règles et aussi l'expertise dans la prise des décisions budgétaires. Et je pense que si on prend... C'est pas forcément que les cas extrêmes, mais je pense qu'on peut quand même les dire. En Allemagne, on a beaucoup plus cette tendance de dire d'avoir un rôle limité de l'État dans l'économie et aussi une appétence très importante pour des règles et presque un point de vue assez critique sur le rôle d'expertise où il y a toujours cette crainte que même les experts peuvent se tromper et ça peut mener à des politiques qui dans le long terme sont pas très cohérents et si on se met une fois des règles même s'ils sont pas forcément toujours le mieux pour telle ou telle situation, dans le long terme ça mènerait à une meilleure politique. Et en France il y a beaucoup plus cette vision que des règles, si on les applique strictement. En fait, des fois, c'était même dit par des acteurs politiques, c'est stupide, c'est idiot, c'est pas en fait la bonne manière de gérer des contextes économiques difficiles ou différentes. Ça permet pas de réagir à des situations macroéconomiques, budgétaires, de tel ou tel contexte, en fait. Et je pense que ça, il faudrait vraiment garder en tête. Si on regarde un peu pas que la réforme qui est sur la table aujourd'hui, mais aussi l'évolution de ce cadre budgétaire européen, on a quand même vu déjà plusieurs phases de réforme. C'était toujours un peu un processus aussi d'apprentissage et après de réapprentissage qu'on a vu que ce qu'on avait prévu finalement marche pas si bien parce qu'on a commencé, c'était dit avec les 3% et les 60%. Avec très peu de focus en fait sur le rôle pro-cyclique ou contracyclique en fait de ces règles. En réponse à ça, en 2005, on a déjà fait une réforme en fait où on a mis ce qu'on appelle le déficit structurel plus en avant en fait, avec l'idée que ce type de règles prendre plus en compte le cycle économique et permettre mieux en fait de ces règles de aussi permettre la croissance en fait. Après 2010-2011, on a vraiment dans la crise de la zone euro et aussi la crise de la dette, on a vu plus de réformes. Il y avait déjà des dysfonctionnements vus de différents points de vue, d'un côté notamment de l'Allemagne, qui a dit que voilà, les règles ne sont pas suivies en fait vraiment. Donc il faut renforcer en fait les moyens pour respecter les règles. On a aussi vu une multiplication en fait des règles. Et je pense que c'est aussi important maintenant pour la réforme des règles aujourd'hui. Beaucoup des États membres ont mis en place des règles budgétaires nationaux, en fait. Deux fois, c'était demandé, en fait, par le Fiscal Compact, par les pactes budgétaires européens. Mais il y avait aussi beaucoup de pays qui ont fait ça déjà en amont ou en fait mis leurs propres règles. En fait, chaque réforme au niveau européen, Si c'est bien fait, en fait, ça peut aussi se heurter à des règles budgétaires au niveau national qui sont pas forcément réformées. Et donc, je pense qu'il faut garder ça en tête. Je pense que pour la réforme qui est aujourd'hui sur la table, il y avait vraiment un processus d'apprentissage, je pense qu'au sein de la Commission, même aussi au sein de différents États membres, mais pas de tous, je pense que forcément, et je pense que ça explique aussi pourquoi les négociations sont très difficiles, parce que si une des points de vue qu'on a vu comme critique et comme une des raisons pour les réformes, la complexité, aujourd'hui, on voit que l'idée de simplifier, c'est déjà difficile si on veut mettre en place un cadre budgétaire qui prend un peu en compte les différentes situations économiques, budgétaires des différents États membres. si on voit la proposition qui est aujourd'hui sur la table, aussi suite à des demandes notamment de l'Allemagne, avoir en fait de benchmarks en commun plus, ça recrée en fait une complexité énorme parce que déjà le système de maintenant aller vers des règles des dépenses qui sont basées sur une analyse de la soutenabilité de la dette, ça c'est déjà très complexe et pose beaucoup de questions en termes de faisabilité, mais de revenir sur ça en fait, sur cette, je pense qu'il y a quand même une approche assez nouveau et assez différent à ce qui existe aujourd'hui, à revenir en fait sur de règles plus en commun, ça recrée la complexité et ça recrée en fait des problèmes qu'on a déjà eu, qu'il y a tellement de règles différentes que les États membres choisissent un peu ce qu'ils trouvent qu'il est intéressant pour eux ou pas intéressant pour eux ou plus facile pour eux en fait de remplir. Donc, mais je peux on peut en discuter après plus en détail. Je pense que si on veut, on peut essayer d'évaluer la proposition. Je pense que est-ce que ça va dans le bon sens? Oui. Est-ce que c'est à l'auteur de défis? Clairement non, je pense. Et pour plusieurs raisons. Donc, une des raisons qu'il y a quand même le risque, encore une fois, qui crée un cadre très complexe. On essaie d'inciter les États membres à investir plus et mettre en place plus de réformes avec cette extension de ce plan structurel budgétaire. C'est un peu modélé sur l'idée de plan de relance avec le plan national de relance et de résilience. Mais là, c'était de l'argent nouveau, en fait, de l'argent européen qui était supplémentaire. Et je pense que on soit en base en termes de propositions et même si la mise en œuvre va être compliquée, c'était quand même une bonne idée. Après là, l'incitation est beaucoup moins forte avec les nouvelles règles budgétaires, Sylvien, parce que ça reste de l'argent national en fait. Et donc, est-ce que les États membres vont tous décider qu'on va se contraindre avec un plan qui détaille beaucoup des investissements et des réformes contre un peu plus d'espace budgétaire? Je ne suis pas sûr. Je pense qu'il y a des pays pour qui ça c'est intéressant, mais des autres pour qui c'est pas intéressant. Et ça se heurte vraiment à l'ambition en Europe d'accélérer la transition verte. Je pense qu'un des grands problèmes pour la réforme aujourd'hui et pourquoi les positions restent très traditionnelles, je pense que dans le terme de position entre notamment l'Allemagne et la France, c'est aussi parce qu'on n'a pas lié cette réforme à une réflexion plus large en fait des réformes de la gouvernance économique en Europe qui est vraiment dommage à mon avis. Je pense qu'on aurait vraiment pu essayer de trouver en fait de consensus ou de compromis plutôt en élargissant le champ des négociations et aussi de réfléchir notamment aussi pour une suite de plans de relance à des nouveaux financements européens, vraiment de réfléchir sur une capacité budgétaire européenne ou des autres moyens en fait où on a des financements qui viennent du niveau européen en fait. Et ça je pense qu'après on a pu trouver un compromis qui est un peu plus capable de traverser les différents points de vue qui restent importants entre les différents États membres. Et je pense que ça aussi, si on aurait plus de financement au niveau européen, on a pris ça ensemble, on a aussi eu beaucoup mieux lié ça à les incitations à investir et à faire des réformes. Et voilà, je me rate là et on peut continuer après.
Merci beaucoup. Donc, on voit qu'on a identifié deux équilibres à atteindre, à la fois un équilibre entre des objectifs, parfois sous des contraintes contradictoires, et un équilibre entre conceptions économiques qui peuvent être extrêmement différentes entre États membres. Donc, on a finalement, oui, deux équilibres sous des contraintes très contradictoires à démêler et à essayer d'atteindre. Donc, Sébastien et Dalide, sur cette question des objectifs peut-être contradictoires et de la manière dont la réforme a choisi de naviguer entre ces objectifs, est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu plus?
Alors, merci beaucoup. Merci aux organisateurs pour leur invitation et pour l'organisation. Sur les objectifs, et ce sera un peu en fait le centre de mon propos, le juriste que je suis, plus il étudie ces règles, moins il y croit. Parce que le projet intellectuel, d'un point de vue juridique derrière ces règles, me semble irréalisable. Pourquoi d'ailleurs? Il y a énormément de textes qui encadrent ce processus. Des articles du traité, deux règlements en 1997, deux en 2011, une directive en 2011, un traité en 2012, deux règlements en 2013, plus des documents adoptés par la Commission qui font plus de d'une centaine de pages. On est donc sur un corpus juridique extrêmement lourd et complexe, avec un paradoxe, et c'est que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, je vous ai pris trois citations sur globalement plusieurs aspects du cadre. Citation de la Commission européenne qui dit que c'est un succès mitigé. Bon, elle ne va pas dire que c'est un échec total, évidemment, c'est elle qui pilote la procédure. La Cour des comptes européenne, alors à propos de ce qu'on appelle les recommandations par pays, c'est-à-dire des recommandations qui sont faites tous les ans au pays, elle nous dit en 2020 que le taux de mise en œuvre intégrale ou substantielle est faible. Bon, très bien. Et en 2023, un rapport de l'Assemblée nationale sur la proposition de la Commission en cours qui nous dit que les règles se sont surtout avérées inefficaces. Donc on a un corpus juridique substantiel qui ne marche pas, avec donc cet objectif, ça a été dit, de la Commission de simplifier tout cela. Alors, pourquoi ça ne marche pas ? Je le dirais clairement, c'est que du point de vue du juriste, il y a quelque chose de profondément irréaliste à vouloir soumettre des choix politiques qui sont, à mon sens, la quintessence de ce qu'est la politique, à savoir l'impôt et ce qu'on en fait, à des règles juridiques préétablies au niveau supranational et non, comme ça a pu être le cas parfois, dans des règles constitutionnelles. Et pourquoi ça ne marche pas ? Parce que on conçoit l'idée que l'économie peut se piloter un peu comme la protection de l'environnement. C'est-à-dire que si, à partir d'un certain moment, dans l'air, il y a trop de polluants, eh bien, il faut arrêter d'en émettre, et donc qu'il y a quelque chose de nocivité et d'automatique dans tout ça. À mon sens, c'est une foi immodérée, beaucoup trop grande, en deux choses. D'abord, le fait que, je suis désolé pour les économistes, mais l'économie n'est pas une science exacte, et j'y reviendrai dans un instant, et surtout dans la capacité de la règle de droit à atteindre son objectif. La règle de droit, bien souvent, elle est laissée inappliquée. Et donc il ne suffit pas de dire quelque chose dans une règle de droit, ou ne serait-ce dans une quinzaine de règles de droit, pour que ça marche. Et donc on a cette double foi immodérée en deux choses qui ne marchent pas forcément. Alors pourquoi ? Il y a d'abord, à mon sens, une forme d'illusion technique. C'est-à-dire que on va faire comme s'il y avait quelque chose de scientifique, on met des cas, 3%, 60%, on dépasse, on met des procédures pour repasser en dessous. Or, apprécier le respect de ces critères, 30%, 60%, mais plus généralement, en fait, ça n'est pas un exercice technique. C'est un exercice qui ouvre une marge discrétionnaire à la Commission. Par exemple, dans le cadre précédent, la Commission et les règles insistent beaucoup sur la croissance potentielle, c'est-à-dire qu'il faut vérifier si l'État va voir son déficit se réduire en fonction de sa croissance potentielle. La Commission a écrit en 2020 que cette croissance potentielle repose sur des variables qui ne sont pas directement observables et qui sont fréquemment révisées. Donc on essaie de mettre quelque chose d'automatique en observant des choses qui ne sont pas certaines ni figées. Et pourquoi cette proposition ne marchera pas ? C'est parce que c'est la même chose. On enlève la croissance potentielle, c'était pas assez suffisamment observable de manière neutre et technique. On propose la Debt Sustainability Analysis, c'est-à-dire la soutenabilité à long terme de la dette. Même la Banque de France, dans un papier récent, a dit que là encore, ça reposait sur des variables pas forcément observables. Donc, on veut mettre des règles techniques et automatiques en se fondant sur des critères qui sont extrêmement discrétionnaires. Discrétionnaires, et cela donne alors quelque chose de profondément politique. Politique au sens où les choix qui sont faits ne correspondent pas aux choix techniques. Il faut bien se rappeler un moment précis, c'est 2016. Comme M. Heisel l'a rappelé, en 2011, on a une profonde refonte, on remet des règles beaucoup plus contraignantes, et l'Espagne et le Portugal sont en infraction de ces règles. Il y manque une étape toute petite pour prononcer pour la première fois des sanctions. Parce que toutes les procédures qu'on a décrites, il y a des sanctions possibles. Elles n'ont jamais été prononcées. Il manque une étape. Et la Commission renonce. La Commission renonce, et ce qui est très intéressant à l'époque, c'est que un chercheur en sciences politiques était en observation au cabinet de Pierre Moscovici. Et c'est chez Pierre Moscovici que ça se passe. Moscovici a lutté et a gagné pour qu'il n'y ait pas de sanctions. Et c'est un choix politique qui est fait pour dire, je vous ai mis une citation, qu'il faut avoir une approche
moins austère et plus ouverte des règles. Donc vous voyez bien que ces règles, non seulement il n'y a pas de lecture technique possible, mais la Commission elle-même en fait une lecture politique. Donc en réalité, tout est politique. Alors, s'il y a peut-être un problème de la part du juriste que je suis dans ces règles, c'est la dérive technocratique. C'est-à-dire que si la politique, elle est par essence liée à l'élection. Et la politique, elle est légitime parce que les décisions, elles sont prises par des organes élus. Or, depuis deux décennies, on n'est fait que renforcer les organes techniques. On peut débattre sur le caractère d'organe technique de la Commission, mais en tout cas, dans ce qu'elle fait pour la gouvernance économique, tout ça est extrêmement technique. Et il y a l'objectif de renforcer le pouvoir de ce qu'on appelle les organes non majoritaires, c'est-à-dire des organes qui ne sont pas influencés par l'élection. Donc, en partie, la Commission, dans son activité dans la coordination des politiques économiques, et puis même au niveau national, ça a été dit, hein, l'objectif en fait final, il serait de soumettre une partie des choix budgétaires à des organes, des institutions budgétaires indépendantes, c'est-à-dire des experts qui permettraient de piloter tout ça. Le tout, évidemment, avec une exclusion grandissante du Parlement, puisque le Parlement européen est à peine mentionné dans la proposition de la Commission, et puis les parlements nationaux, eh bien évidemment, plus on transfère de pouvoir... plus les procédures sont strictes au niveau européen, moins les parlements nationaux ont de marge de manœuvre dans ce cadre-là. Pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que la démocratie s'est construite sur une règle simple, le consentement à l'impôt. La démocratie se construit sur le consentement à l'impôt. Si on exclut les parlements de ça, il y a évidemment un gros problème démocratique. Et puis, j'ai parlé à l'instant d'une technocratie publique, mais en réalité, on oublie toujours la technocratie privée. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas oublier que le droit, et c'est là, en fait, que le droit joue, et c'est pour répondre d'ailleurs à la question de la table ronde sur un retour de l'austérité, le droit crée ce qu'on appelle la discipline de marché. Vous avez trois articles dans le traité, le 123, 124, 125, je ne détaille pas, mais ils ont un objectif simple, c'est de faire en sorte que l'endettement public se fasse dans les mêmes conditions que l'endettement privé. Ce qui soumet donc les politiques économiques au jugement des marchés. Et donc, si austérité il y a qui revient, ce ne sera pas le fruit des nouvelles règles européennes, mais bien le fruit, en réalité, de l'augmentation des taux d'intérêt et donc des taux d'emprunt des États. Et pour répondre à un dernier point qui m'est venu après sur votre question, sur les objectifs, on l'a vu, ça a été dit, il y a à peu près 5-6 objectifs dans cette réforme. Et je ne sais plus, peut-être que les économistes pourront m'aider, il y a un économiste qui a dit qu'en politique économique, il fallait un instrument, un objectif. Et c'est clair, si vous voulez poursuivre un objectif, il faut qu'un instrument. Là, on a toujours un instrument qui poursuit une dizaine d'objectifs. C'est pour ça que je suis extrêmement sceptique sur l'efficacité de cette réforme. Je vous remercie.
Merci, merci beaucoup. Donc, pour prendre un pas de recul, je me tourne vers Laurent Verlouzet sur cette question. Donc, si tout est politique, finalement, où en est-on dans les équilibres politiques entre États membres sur cette question ? Et êtes-vous d'accord avec le diagnostic qui vient d'être posé.
Merci Elena. Oui, effectivement, tout est politique. Là, je remercie aussi Sébastien Adali d'avoir conclu là-dessus. Ça fait une belle transition. C'est très exaltant d'être au milieu de ce panel pluridisciplinaire, puisque moi, je représente en partie l'Eurolab, qui est un regroupement de chercheurs dans différentes disciplines. On essaie de promouvoir les échanges interdisciplinaires sur l'Union européenne. Bon, je remercie surtout, effectivement, Elena, tous les intervenants. La Fondation pour l'Université de Lyon qui organise cette superbe manifestation, et puis vous tous et toutes qui êtes venus donc à 9h nous écouter sur les règles budgétaires, donc c'est tout à fait héroïque. Même si on a de la chance d'être dans un bel amphi, moi je suis professeur à la Sorbonne et on a un amphi aussi équivalent, l'amphi Richelieu, qui est aussi très beau, mais qui est un petit peu, disons, défraîchi. Enfin, il y a beaucoup moins de lumière. On voit bien que maintenant, c'est plus Paris, la ville de lumière, c'est plutôt Lyon. Hein. Je crois que vous avez la fête des Lumières, vous avez aussi les Frères Lumière. Et là, c'est vrai qu'on est dans un bel écrin de ce point de vue-là. Alors, effectivement, moi, je vais vous parler des règles budgétaires aussi avec un regard d'historien. Donc, on met l'accent, effectivement, sur les aspects politiques, en croisant les aspects de sciences politiques, de droit et d'économie. Je me demandais si les règles budgétaires européennes, on a bien vu là au cours du débat, c'est un carcan, ou est-ce que c'est au contraire une opportunité, un espèce de parapluie qui nous protège. Et puis ensuite, dans un dernier temps, un troisième temps, je conclurai rapidement pour voir quels sont les choix qui nous sont offerts. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que citoyens, que nous, notamment à l'occasion des élections, on peut faire. Alors, est-ce que les règles budgétaires européennes sont un carcan ? Donc c'est un petit peu l'impression générale qui ressort quand même, notamment lorsque on évoque les règles budgétaires européennes dans le débat public. On nous impose donc les 3%, les 60% dont vous avez parlé, Elena, ça nous pressure. Assez souvent, les gouvernants utilisent l'argument, voire l'excuse des règles européennes pour promouvoir telle ou telle réforme impopulaire. Et donc, on a toute une série de textes, effectivement. Sébastien en a parlé depuis Maastricht, qui interdit donc le financement monétaire, qui organise une union monétaire centrée sur une faible inflation. Le pacte de stabilité, le traité budgétaire, disons, pour aller vite. Alors que, d'un autre côté, et ça, Dorothée, vous l'avez évoqué, aujourd'hui, en 2023, mais même auparavant, on a des besoins qui explosent, des besoins pour traiter la transition écologique, pour augmenter le budget d'armement avec notamment la guerre en Ukraine, et puis même plus généralement, des besoins démographiques, puisque on aura nécessairement un vieillissement de la population, et donc il faudra bien payer ma retraite et puis mes frais de santé, j'espère, lors de ma longue retraite, par un nombre toujours plus limité de jeunes. Donc on a des besoins budgétaires qui explosent, et puis face à ça, on a donc des règles budgétaires qui peuvent paraître contraignantes. Si je reprenais mon livre, moi j'ai publié un livre qui s'appelle « Europe contre Europe, entre liberté, solidarité et puissance », et donc l'idée, ce serait aujourd'hui de savoir si l'Europe va s'arrêter à la première étape, l'Europe libérale, l'Europe du marché régulé, ou si on va évoluer vers un modèle de solidarité, voire de puissance, si l'Europe veut peser sur son environnement. Et alors dans cette première histoire, évidemment, sur les règles budgétaires comme un carcan budgétaire, dans toutes les histoires, il y a un méchant. Donc là, le méchant, c'est toujours l'Allemagne. Et donc avant, c'était Wolfgang Schäuble, le ministre des Finances allemand lors de la crise de l'euro, le faucon. Et maintenant, c'est Christian Lindner, hein, qui ministre des Finances, qui propose donc des règles budgétaires plus strictes que ce que nous, on souhaiterait. Donc ça, c'est une première lecture de la réalité qui n'est pas fausse, hein, comme toutes les lectures un petit peu exagérées ou mythifiées. Il y a quand même une part de réalité, mais en même temps, il faut essayer de considérer la réalité sous tous ses angles, un peu dans une vision cubiste, et donc voir que ces règles budgétaires, c'est aussi pour nous une opportunité, voire un parapluie. Aujourd'hui, on est à 119% de dette sur le PIB en France, hein, 142% en Italie, contre 65% pour l'Allemagne. L'Allemagne a des atouts qu'on n'a pas, mais bon, ils ont quand même dû gérer la réunification. Ils ont aussi une population qui vieillit. Enfin, chaque pays a son lot de problèmes. Et malgré les 119% de dette française, on a une charge de la dette qui est à peu près à 2% du PIB, soit moins qu'avant la création de la zone euro, alors qu'on avait une dette inférieure. Donc la lecture que font, et là je rejoins un petit peu Andrea, si on était dans d'autres pays, la lecture que font d'autres pays, c'est de dire que les règles budgétaires européennes, c'est ce qui nous a permis de nous endetter. Parce que sans l'euro, on n'aurait jamais pu s'endetter autant, et on aurait peut-être dû aller au FMI pour réclamer un renflouement budgétaire. Certains pays européens l'ont fait il y a relativement peu de temps, au début des réflexions sur l'union monétaire. La Grande-Bretagne en 76, l'Italie en 77. Donc c'était évidemment une humiliation. Et c'est pour éviter ça que les Français, après, dans les années 80, alors déjà en 79 et puis après dans les années 80, se sont lancés dans une union monétaire avec des pays qui avaient une monnaie plus forte que nous, les Allemands, pour essayer justement d'avoir une monnaie plus forte, ce qui a des inconvénients, mais ce qui a des avantages. Alors les inconvénients, c'est que les exportations sont plus chères, donc il faut être plus efficace quand on exporte. Les avantages, c'est qu'on se finance plus facilement. Et aujourd'hui, on se finance plus facilement. On a des taux bas grâce à cette union monétaire qui est assise sur ses règles budgétaires. On a eu des procédures de déficit excessif, mais Sébastien en a parlé, on a toujours évité les sanctions. Nous, on n'a jamais respecté en fait les 3%, les 60%, donc il y a des règles, mais il y a une marge dans l'interprétation des règles. Et puis, je citerai un livre d'Éric Monnet sur la Banque Providence. Je ferai peut-être aussi je mettrai en ligne les références. Éric Monnet, donc, qui est un historien, un économiste, qui était un économiste aussi à la Banque de France. Et il a observé, bon, c'est pas le seul, qu'aujourd'hui, la BCE, avec le quantitative easing, là on a vu Mario Draghi qui était illustré brièvement sur le PowerPoint, la BCE en fait a presque plus de dettes des États que la Banque de France à l'époque du franc. Donc, voilà, est-ce que ces règles sont vraiment un carcan si contraignant, ou est-ce que c'est une excuse des gouvernants pour promouvoir certaines réformes? Est-ce que c'est même pas plutôt aussi une opportunité pour obtenir des financements à niveau inférieur? Je dirais que les deux parties de la réalité sont véritables. Juste un petit mot sur l'histoire. D'où viennent les 3%? À la base, c'est une règle française, en fait. Pierre Mauroy, qui était Premier ministre de François Mitterrand en 1981 à 1984, peut-être que les plus jeunes ne s'en souviennent pas, mais pour les plus anciens, c'est quelqu'un d'important, surtout pour quelqu'un comme moi, puisque mon nom de famille, Varlouzet, vient du Nord, et donc Pierre Mauroy, c'était un grand personnage du Nord de la France, hein, grand sous tous les angles. Lorsque Pierre Mauroy est arrivé au pouvoir en 81, voilà, il a lancé une grande politique d'investissement, de dépenses sociales, mais qu'il a placé sous le signe de la rigueur et de l'imagination. Donc le mot rigueur, ce n'est pas une insulte, c'était un mot qui a été promu par le Premier ministre socialiste Pierre Mauroy. Et dès 82, quand il a vu le déficit qui commençait à filer, bon, en 81, on était un pays avec une dette très faible, moins importante que l'Allemagne. Donc c'était logique en même temps de dépenser dans une perspective contracyclique, comme vous l'aviez expliqué. Mais bon, au bout d'un moment, le déficit s'accroissait, les financements internationaux étaient plus difficiles à obtenir, et donc Mauroy a imposé la règle des 3% pour le déficit français, ce qui paraissait logique, puisqu'à l'époque, c'était un petit peu la perspective de croissance, 3% par an, 3% de déficit. Et puis après, le chiffre est resté, et donc au moment du traité de Maastricht, on a estimé que c'était quelque chose de logique, puis les 60%, c'était plus ou moins le niveau de la dette française de l'époque. Donc, quand on dit les règles sont imposées par Bruxelles, oui, c'est vrai, mais Bruxelles, c'est nous. Bruxelles, ce n'est pas juste des technocrates qui viennent de nulle part. Alors, on parle d'institutions non majoritaires. Bon, je vais y venir dans un troisième temps. On a quand même une marge de manœuvre. Quelle est notre marge de manœuvre à nous, une fois qu'on a fait ce constat, quoi, carcan, opportunité? Notre marge de manœuvre, elle existe en tant que citoyen à travers le vote. Alors, notamment le vote aux élections européennes. Vous pourrez voter en juin 2024, l'année prochaine, je crois que c'est le 6 juin, il me semble. Alors, en France, il n'y a pas peu de partis qui vont promouvoir des règles budgétaires strictes, mais disons que vous aurez quand même un choix entre des partis qui sont plus ou moins rigoureux, d'autres qui proposent plus ou moins de dépenses. Et votre vote, il va permettre de déterminer les députés européens, mais aussi la présidence de la Commission. C'est ce qui s'est passé la dernière fois. Et puis après, si vous... Là, c'est plus aux élections nationales où vous allez voter pour des gouvernants qui vont eux-mêmes désigner le prochain gouverneur de la BCE. Donc, in fine, voilà, on a tous une voix. Alors, évidemment, c'est très frustrant parce qu'on a l'impression que notre voix n'est pas étudiée, mais n'est pas entendue. Mais ça, c'est ce qui s'appelle la démocratie. Donc, voilà, hein, vous devez tenir compte des autres personnes. C'est toujours un petit peu pénible. Alors, on n'a pas non plus un choix illimité, puisqu'on a quand même des règles qui s'imposent à nous, des règles financières. Même si on était en dehors de l'euro, il faudrait qu'au bout d'un moment, on pense à équilibrer notre budget, à sortir du quoi qu'il en coûte, à moins de recourir à la création monétaire. Ce serait possible, mais ensuite, on a vu que ça pouvait dériver. Il y a encore des exemples contemporains avec le Venezuela, le Liban, dans des cas extrêmes. On a des enjeux qui s'imposent à nous aussi liés au projet européen, si on veut le maintenir dans une certaine homogénéité, donc éviter trop de déséquilibres internes. Mais en même temps, on a des marges de manœuvre, donc Sébastien l'a bien dit, on a des règles qui ne sont pas théoriques, mais qui, disons, peuvent être interprétées d'une manière ou d'une autre. Moi, j'en étais resté à la numérotation du traité de Maastricht, mais l'article 105 qui fixe les objectifs de la BCE dit bien qu'il y a l'inflation, mais il y a aussi... les objectifs généraux de l'Union européenne. Donc là, on peut mettre beaucoup de choses dedans. À l'intérieur de ce cadre, sans changer les traités, il y a des marges de manœuvre. Là, je vous fais référence encore à ce livre d'Éric Monnet, qui s'appelle « La Banque Providence ». C'est un petit livre qui doit faire 100 ou 150 pages, où il propose des pistes d'évolution de la politique monétaire européenne, plus ou moins à traité constant, pour tenir compte justement des besoins écologiques, donc orienter, favoriser les green bonds, la finance verte, réformer un petit peu la BCE. Donc bon, voilà, il y a des marges, théoriques en tout cas. Et puis, vous avez aussi un autre aspect dont on n'a pas parlé, parce que là, on a parlé du volet dépenses, il y a aussi le volet recettes. Et là, vous avez des propositions pour lever des nouvelles recettes au niveau français ou au niveau européen, taxes sur les multinationales. Et pour, sinon, vous avez eu une réforme, une proposition aussi de la députée Aurore Laluc, l'eurodéputée Aurore Laluc, qui est intervenue aussi aux Journées de l'économie. Je ne sais pas si elle va intervenir ou si elle est intervenue. Qui propose un impôt sur le capital européen. Je ne sais pas si ça pourra se faire, mais je veux dire, c'est quelque chose qui, en tout cas, est mis dans le débat là, à l'occasion des élections européennes qui vont avoir lieu en juin. Voilà, donc tout ça pour conclure sur le fait que le pouvoir reste entre nos mains, donc c'est à nous aussi de décider ce qu'on veut faire de ces règles budgétaires européennes. Merci.
Merci beaucoup, merci à vous tous pour ce premier tour de table absolument passionnant. Et je voulais donc retourner vers vous, Dorothée Rouzé, déjà, si vous voulez réagir à tout ce qui a été dit, ces interventions très riches. Et donc sur la question de, puisque c'est le titre de la conférence, de l'austérité, finalement, dans quelle mesure on ressent, et au niveau européen et à la fois au niveau national, une urgence vis-à-vis de ces règles, étant donné donc ce dont on a parlé, les besoins d'investissement très importants qui se profilent, ou bien finalement c'est un débat qui pourra se faire plus tard entre guillemets, et finalement il ne faut peut-être pas mettre trop, quelle signification il faut mettre dans ces règles, comme on l'a dit, finalement ces règles qui n'ont jamais vraiment été respectées par différents États membres. Finalement, dans quelle mesure c'est un moment politique crucial, ou dans quelle mesure finalement le débat va peut-être être ajourné vis-à-vis de des budgets et des investissements nécessaires?
Merci, et merci aux autres intervenants. C'est vraiment très riche de croiser les approches des différentes disciplines. Je vais peut-être d'abord réagir rapidement sur trois points qui ont été évoqués. L'un, c'est la question de la simplification, la question de l'incitation d'investissement et la question du contrôle démocratique. Sur la simplification, alors je reconnais, c'était un objectif d'ensemble de la réforme, de dire pour avoir aussi plus d'appropriation, il faut que les gens comprennent les règles. Le problème, c'est qu'on a deux tensions qui font que, effectivement, le point d'arrivée n'est pas le grand soir de la simplification des règles. La première tension, c'est entre faire simple et faire intelligent. C'est-à-dire que si je vous dis 3% de déficit, 60% de dette, c'est très facile à comprendre. C'est pas très intelligent, parce que ça correspond pas en fait aux besoins et à tout ce qu'on vient de se dire, mais c'est très facile à comprendre. Alors si je commence à vous dire donc ce qui était dans les règles d'avant, ajustement du déficit structurel, déjà le calcul du déficit structurel, c'est pas non plus un truc que tout le monde connaît. Et donc il y avait des velléités de simplifier en ayant moins d'indicateurs, en ayant notamment, alors en passant de, ça devient technique, mais du déficit structurel à un indicateur principal sur la croissance de la dépense, c'est-à-dire de la dépense publique. Parce qu'on dit d'abord la dépense publique, c'est un truc a priori que les gouvernements contrôlent un peu mieux que... Mais une fois qu'on s'est dit ça, après on s'est dit oui, mais on va quand même corriger pour, si vous faites des hausses ou des baisses d'impôts, parce que ça affecte aussi les dépenses, et puis on va corriger des effets du cycle, et puis on va corriger, et à la fin on retombe un peu sur les mêmes choses et sur des indicateurs qui sont pas très faciles à comprendre. Mais c'est difficile de dire on va différencier, on va prendre en compte les besoins de chaque pays, etc., et en même temps on va faire des règles très simples et très faciles à comprendre. Donc je reconnais que là-dessus, c'est pas là qu'il y a le plus avancé. Mais c'est un peu difficile de tenir cet équilibre-là. Et par ailleurs, ça se heurte aussi à l'attention de ce qui est la nature d'une négociation, c'est qu'on cherche un compromis, et on cherche un compromis avec des pays qui, comme le disait Andreas, sont beaucoup plus attachés aux règles numériques, à réintroduire différents critères un peu uniformes. Et donc, quand on croise toutes les dimensions et qu'on essaye de comprendre quel est l'impact sur, au fait, qu'est-ce qu'on est censé faire sur nos finances publiques, ça demande un peu de temps pour vraiment analyser ça. Donc là, c'est sûr que c'est pas là qu'il y a eu le plus avancé. Sur les incitations aux investissements, là, enfin, c'est aussi une question où il y a eu beaucoup de débats. Donc Andreas disait notamment, c'est l'extension de la période sur laquelle on est censé faire un ajustement budgétaire, faire baisser notre dette, etc. Donc on doit par défaut proposer des plans à 4 ans qui sont des plans à la fois sur l'aspect finance publique, mais aussi on peut demander que ça soit étendu jusqu'à 7 ans en proposant des investissements et des réformes. Ça n'a peut-être pas l'air de grand-chose comme ça, mais en fait, c'est assez puissant comme incitation, parce que pour un pays comme la France, en fait, ça réduit de moitié l'effort budgétaire qu'on doit faire par année. C'est-à-dire qu'en fait, on peut... et ça nous donne des marges pour investir qui sont vraiment significatives. Si on doit faire... Alors là, c'est à titre illustratif, c'est pas forcément évident, mais si on doit faire 1,5 point de PIB d'effort budgétaire au lieu de 1 point de PIB par an, Concrètement, vous avez quasiment 15 milliards de marge supplémentaire pour investir. C'est pas rien, 15 milliards pour investir. C'est en gros la moitié de l'effort, plus ou moins, qu'on doit faire pour la transition écologique. Donc c'est absolument pas neutre, cette extension. Et par rapport à d'autres choses qui ont pu être mentionnées, type par exemple exclure certains investissements des règles budgétaires. C'est vrai que nous, on a plutôt défendu cette approche de l'extension qui permet assez facilement d'avoir l'extension dans la mesure où on s'engage vraiment à faire des investissements supplémentaires. Parce que dès qu'on commence à se dire oui mais on va exclure le vert, puis certains diront faut aussi exclure la défense, puis en fait l'éducation c'est de l'investissement, après ça donne lieu, en fait tous les gouvernements seront très très forts en créativité comptable pour vous expliquer que toutes leurs dépenses sont au fond de l'investissement, et donc on retombe un peu à la case départ. Donc en fait c'est un mécanisme qui est assez assez basique en un sens, mais qui donne des vraies incitations en fait en termes de quel effort on vous demande. Alors évidemment après se pose la question de quel est le degré, de contrôle d'investissement. On peut pas avoir, c'est pas complètement comparable, comme on disait, au plan de relance européen, où là c'est de l'argent européen, donc c'est un peu normal que, de manière collégiale, les autres pays aient davantage de droit de regard sur à quel point vous respectez bien vos engagements et tout, avec un niveau honnêtement de détails bureaucratiques qui est très lourd pour tout le monde. Bon, là c'est quand même notre argent, hein, c'est-à-dire qu'on s'engage à investir notre argent, donc c'est normal aussi qu'après la procédure de contrôle soit quand même pas aussi lourde que quand l'Europe met de l'argent à disposition. Mais en tout cas, c'est pour le coup, c'est une vraie incitation, et côté français, on a bien l'intention de l'utiliser. Et peut-être dernier point, pour appuyer aussi sur la question un peu de l'équilibre entre contrôle démocratique et contrôle technocratique. Hein, moi, j'appuie complètement ce qu'a dit Laurent Varouzet. La Commission, c'est pas uniquement un organe technocratique. Ça paraît un peu loin, ça paraît un peu déconnecté, mais enfin, la présidence de la Commission, elle est issue des élections européennes, elle est tous votée l'année prochaine. On est chacun une personne sur 450 millions de citoyens européens. Enfin, c'est aussi le principe de l'Europe. Mais on a aussi chacun une voix. Et par ailleurs, dans les procédures, il y a un rôle de la Commission, il y a aussi un rôle du Conseil européen. Le Conseil européen, donc c'est tous les chefs d'État européens, c'est-à-dire que là aussi, on vote chacun pour nos chefs d'État, qui ont aussi un rôle. De toute façon, quand on se dote de règles, forcément, on se dépossède d'un peu de marge discrétionnaire, mais en même temps, on est tous dépendants les uns des autres, et c'est aussi pour ça qu'on a des règles communes. Et je pense qu'il faut... Quand on compare avec la BCE, c'est un peu difficile pour moi de dire la Commission est un organe technocratique et donc c'est quand même un peu gênant par rapport aux parlements nationaux qui, par ailleurs, auront complètement leur mot à dire sur les budgets, sur est-ce qu'on veut un ajustement plus fort sur 4 ans, est-ce qu'on veut faire plus d'investissements sur 7 ans, les budgets nationaux, à la fin, les États ont une certaine marge de manœuvre sur ce qu'ils proposent à la Commission et à la fin, ils sont soumis chacun au contrôle de leur parlement. C'est la procédure démocratique classique. En revanche, si on ne peut pas reprocher le côté un peu trop technocratique de la Commission et se dire par ailleurs, mais c'est quand même gênant que la BCE ne puisse pas faire du financement monétaire, parce que la BCE, pour le coup, elle est indépendante, elle n'a aucun lien avec aucune élection. Et donc dire que la BCE, au fond, par son action, pourrait complètement influencer la politique budgétaire, là, pour le coup, ou décider de donner un peu plus de marge à un pays, un peu moins à l'autre, de manière complètement discrétionnaire, pour moi, poserait peut-être davantage de problèmes démocratiques. Pour répondre rapidement sur la question de est-ce qu'on va vers l'austérité, moi, je pense que justement, l'objectif, pour nous, de cette réforme, c'est de ne pas retomber dans les travers du passé, notamment les travers des années 2010. Alors, on sait qu'on a vécu 3 années complètement hors normes, y compris sur la dépense publique, et de manière parfaitement justifiée pour protéger nos économies et nos citoyens. On doit revenir à une certaine forme de normalisation. Le plan de la France, c'est un ajustement budgétaire qui est réel, mais qui est aussi graduel. On reviendrait sous 3% en 2027. Parce que, justement, on cherche cet équilibre qu'on défend dans le cadre européen, on le cherche aussi dans notre cadre franco-français, dans notre propre trajectoire budgétaire, à la fois d'avoir des marges de manœuvre. Si jamais une prochaine crise arrive, il faut qu'on ait les moyens d'agir. De manière générale, être sûr d'être sur une trajectoire soutenable, mais en même temps, de ne pas faire ça en cassant la croissance ou en coupant dans les investissements, ce qui serait complètement contre-productif. Donc, je dirais, on a au moins une certaine cohérence entre notre trajectoire nationale et les positions qu'on porte au niveau européen pour justement éviter que ce soit de l'austérité, notamment au détriment des investissements, ce qui serait vraiment contre-productif.
Merci beaucoup. Je vous précise que vous pouvez envoyer vos questions, et donc on en a quelques-unes qui sont déjà arrivées, et notamment un point très intéressant qui, je pense, a été soulevé dans ce débat à plusieurs reprises, qui est la question, donc, la position de la France est assez claire et nous semble assez, assez connue, mais quelqu'un demande quels sont les points de vue des autres, et donc ça a été déjà beaucoup évoqué. Et est-ce que finalement, se demander si on retourne vers une austérité budgétaire, ou quelqu'un demande si c'est pas excessif de dire que ces règles n'auraient jamais été appliquées, entre guillemets, puisque d'autres, pour d'autres États, ça a été beaucoup plus le cas. Donc cette question, finalement, de se décentrer et de voir un peu si on essaie de faire un exercice de pensée et de se placer, que ce soit du côté allemand qu'on prend souvent, mais également des autres États membres, est-ce que, Andreas, vous pourriez nous éclairer sur cette question?
Oui, bien sûr. D'abord, j'aimerais bien rebondir sur quelques éléments qui étaient discutés. Je pense que c'est intéressant un peu rajouter. Je pense qu'en réalité, il faut se rendre compte qu'il y a toujours des contraintes sur le budget. Donc, soit c'est les marchés qui créent des contraintes, soit il y a des contraintes si on finance, je sais pas, si on fait un financement monétaire, à un moment, il y a des risques d'inflation, notamment parce que si on a sa propre monnaie via des taux d'échange, mais des autres déséquilibres qui pourront découler. Ou il y a des contraintes qui sont les règles ou des contraintes politiques d'une certaine manière. Et donc il y a des contraintes en tout cas. Et donc il faut toujours réfléchir quel type de contraintes on cherche ou pas et comment on peut gérer cette situation. Dans le cadre de la zone euro, on a une monnaie commune. Je pense que c'est très difficile de ne pas avoir une coordination budgétaire dans l'absence d'un budget européen qui est vraiment détaillé. Et donc, je pense que c'est important qu'il y ait une certaine forme de coordination aussi sur en termes de politique budgétaire et macroéconomique. Donc, quelle position en termes de stimulus ou de consolidation budgétaire les différents États membres prendraient dans la situation optimale. Sur le non-respect de la règle, et est-ce que c'est un très gros problème ou pas? Est-ce que ça montre que le système ne fonctionne pas du tout? Et est-ce que ça montre plutôt qu'il y a une certaine intelligence ou une expertise derrière qui, après, essaie de on peut réagir aux défauts de règles? Je pense que si on regarde, en fait, l'application de règles les dernières, depuis que ces cadres existent, en fait, oui, il y a quasiment tout le monde qui dit que les règles sont peu suivi dans le sens que dans plus de 50% de cas par année, par pays, en fait, les règles ne sont pas suivies, donc c'est pas, on ne suit pas exactement la règle. Au même temps, si on regarde les analyses économiques, on voit bien que ces règles ont eu un effet sur les politiques budgétaires. Il y avait quand même, on parle d'un effet magnétique, en fait, de ces règles, donc vers les 3% ou aussi vers le déficit structurel de 0,5%. La question est, est-ce que c'est optimal ou pas? Je pense que c'est pas le cas. Et donc il y avait aussi cette tendance à avoir différentes, en fait, effets magnétiques par pays, en fait, en réalité. Mais je pense que c'est utile d'avoir la coordination et avoir aussi des objectifs. La question est à quel point ces règles doivent être contraignantes ou pas, ou à quel point, en fait, on revient sur une intelligence économique pour réfléchir quand ou pas on devrait mettre en place ces règles. En fait, c'est intéressant, si on regarde la réforme qui est aujourd'hui sur la table, la réalité, avant la réforme ou avant 2020, c'était plutôt, on a mis en place des règles budgétaires contraignantes, mais il y avait une application, un respect de ces règles assez faible, dans le sens qu'il y avait une flexibilité, en fait, qui était politique à la fin pour suivre cette règle. Et l'idée, je pense que aussi, de la réforme, c'était un peu de renverser ça, donc rendre les règles plus flexibles, mais en contrepartie aussi de rendre, en fait, le respect de ces règles plus fort. C'était un peu cette idée de plans structurels budgétaires qui sont vraiment contraignants pour une période plus longue, parce qu'aujourd'hui il y a le plan budgétaire au moyen terme, ils sont vraiment que indicatifs, en fait. Et donc ça, c'était quand même la tendance en termes de comment vous le revoir ça. La question est, je pense que ça reste le problème, si il n'y a pas de mesures significatives plus larges au niveau européen, en fait, ça reste un problème, en fait, même si on devient plus flexible, l'application aussi reste toujours une question assez politisée. Je pense qu'un autre point que j'aimerais bien aussi lever, en fait, là, on parle beaucoup du niveau européen, mais il y a des contraintes constitutionnelles qui sont propres à des différents pays, qui, je pense, qui, dans la réalité, sont très importants et définissent même d'une certaine manière aussi les positions des différents États. Et par exemple, en Allemagne, c'est pas du tout un problème de si un gouvernement ou si, ben, si le Parlement et donc les acteurs se contraignent eux-mêmes, par exemple avec l'offre de dette, aussi de choix budgétaires de l'avenir, parce que c'est le Parlement qui l'a décidé. Ça pose pas trop un problème pour le cours constitutionnel allemand. En France, par contre, si on regarde différentes réformes qui étaient menées les dernières deux décennies en France. L'idée de la souveraineté, et donc la souveraineté budgétaire, aussi la souveraineté du peuple en France, c'est tellement fondateur, en fait, de la Constitution française que chaque fois qu'un gouvernement ou un parlement, donc c'est plutôt les gouvernements qui font les propositions, a tenté, en fait, de mettre de règles plus contraignantes sur ça au niveau français. Il y avait notamment les conseils d'État, mais aussi les autres institutions qui étaient très critiques, en fait. Et donc, même à l'avenir, en fait, il faut prendre ça en compte, parce que même si on veut renforcer le cadre en termes de suivi des règles au niveau européen, il reste de traditions et de valeurs institutionnelles aussi de différentes dans la Constitution qui sont tellement importantes et je pense qui est utilisées aussi dans le passé, mais qui contraint aussi la possibilité en fait de contraindre au niveau européen tous ces éléments. Et je pense que c'est important à voir parce que par exemple un élément de la Constitution française qui aujourd'hui est, je pense qu'est plus important que le suivi des règles est la sincérité de finances publiques en fait qui est quelque chose qui est contrôlé et qui mène deux fois, je pense, au gouvernement français de faire des propositions de consolidation budgétaire qui sont moins ambitieux que qui est prévu par les règles, mais que le gouvernement trouve qui est réalisable en fait. Et il y a d'autres pays qui, dans la proposition de budget aussi de moyen terme, proposent des choses qui rentrent dans les règles, mais à la fin, ils ne sont pas capables de tenir ça parce qu'ils ne mettent pas en place les mesures, etc. Pour rebondir sur votre question, oui, on parle beaucoup de l'Allemagne, mais c'est parce que c'est un pays important dans les décisions européennes et il y a beaucoup d'autres pays qui peuvent se cacher derrière l'Allemagne, en fait. Et donc, c'est toujours facile de dire que c'est l'Allemagne qui ne veut pas une réforme vraiment profonde. C'est vrai d'une certaine manière parce que notamment l'idée sur les règles qui sont à suivre, c'est important. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est incarné quand même beaucoup aussi chez les économistes allemands, notamment qui travaillent sur des questions macroéconomiques. Mais il y a évidemment aussi des autres pays comme les Pays-Bas, les pays scandinaves, l'Autriche, des autres pays qui ont aussi une vision qui est moins la vision de la France, en fait, qui aimerait avoir plus de flexibilité et plus cette logique économique où c'est que la France revendique comme une solution plus de gérer ça d'une manière économique et pas de simplement mettre en place des règles.
Merci beaucoup. Je me tourne vers Sébastien Adalide sur cette question que finalement la flexibilité pourrait être, au lieu d'être un signe de dysfonctionnement, plutôt peut-être un signe d'intelligence des règles. Est-ce que si on retourne un peu le problème, vous êtes d'accord avec cette question? Et on vous posait également la question de qu'est-ce que vous entendez par la technocratie privée que vous avez évoquée dans votre intervention.
Merci beaucoup. Alors, je vais répondre à vos questions, puis après rebondir sur un point. Sur la flexibilité, mais très bien, je trouve ça parfait que les règles soient flexibles. La question, en fait... Alors, encore une fois, hein, du point de vue du juriste, qui est un point de vue assez, assez restreint, c'est comment s'exerce cette flexibilité. C'est-à-dire que si le choix, si on reprend l'exemple de 2016, il est fait sans aucune transparence, et je reviendrai sur ce point-là, quasiment sans aucun débat public, eh ben, le choix, il est alors ni connu, parce que personne n'a très bien su qu'il y avait eu une forme de réinterprétation des règles en 2016 vers plus de flexibilité. Il est peu accepté parce qu'un choix qui ne fait pas l'objet d'un débat public, souvent il n'est pas compris, il n'est pas accepté. Et donc,
il apparaît comme illégitime. Et finalement, en fait, plus généralement, pourquoi, si on réfléchit, Andreas Heisel en parlait dans un instant, des contraintes constitutionnelles, lorsque on révise la Constitution, eh bien, ça fait l'objet d'une procédure parlementaire, d'une procédure démocratique, d'un débat. Et donc, la question, si elle est inscrite dans la Constitution, c'est que, culturellement, il y a une forme de consensus autour de ça. Si on passe par des règles peu débattues ou débattues une seule fois, eh ben, le consensus ne se construit pas et ne se perdure pas. Les règles, elles sont dans les traités depuis le traité de Maastricht. Certains disent beaucoup, mais c'est formidable, le traité de Maastricht, il a été adopté par référendum. Oui, il y a 30 ans. C'est-à-dire qu'on a débattu de ces règles une fois, il y a 30 ans, et depuis, on les applique. La légitimité, c'est pouvoir remettre en cause les règles de manière transparente et ainsi favoriser un débat public autour de ces questions-là. Donc, c'est pour ça que moi, la flexibilité, je la trouve très bien, mais c'est vraiment cette idée de quelle est la procédure adéquate pour garantir cette flexibilité. Et le juriste, il finit toujours quand même par dire que la bonne procédure, c'est quand même la procédure ouverte, transparente et le plus possible démocratique. Et d'ailleurs, si on pense au processus de négociation, et c'est finalement quand on s'interroge au problème de légitimité démocratique de l'Union européenne, eh bien au fond, et c'est ce que nous disait Dorothée Rouzet, les négociations ont lieu en ce moment entre la France et l'Allemagne, s'élargiront avec les différents États membres. Mais ces négociations, elles ne sont pas publiques. Et si ce n'est pas public, ça veut dire que, et les négociations aussi au Conseil européen ne sont pas publiques, à la fin, un choix arrive et il faut l'accepter. Il faut l'accepter parce que ce choix, il a été durement, difficilement négocié. Mais comment on accepte un choix dont on ne connaît ni les tenants ni les aboutissants et dont le cœur n'a pas été débattu publiquement et, à mon sens, parlementairement. Donc ça, c'est vraiment le problème. Un des problèmes structurels de la démocratie dans l'Union européenne, c'est qu'on fait des choix sans un véritable débat public. Cette question de la technocratie privée, alors c'est un peu facile pour avoir deux titres qui se répondent, technocratie publique, technocratie privée, mais c'est quand même cette idée que les politiques budgétaires, par l'endettement, elles sont soumises au jugement des marchés. Alors, dire jugement des marchés, c'est tout et rien dire. Alors, certains vont dire les agences de notation, etc. Mais en fait, si on essaie de réfléchir à l'existence qui pourrait avoir un jugement des marchés, c'est au fond, personne n'en voudra aux journées de l'économie, reprendre le titre de l'ouvrage d'André Orléans, Le pouvoir de la finance, c'est de dire qu'au fond, les marchés ont un caractère assez mimétique, c'est-à-dire qu'ils s'imitent les uns les autres, et donc il suffit qu'à un moment donné, certains acteurs de marché aient un jugement négatif sur la dette d'un État pour que tout s'emballe. Et donc il y a une forme de jugement privé sur ce que font les États. Est-ce qu'il y a des acteurs identifiés, identifiables? Oui, peut-être, mais tout ça est assez flou. C'est juste plutôt une grande logique mimétique.
Merci. Merci beaucoup, Laurent Verlouzet. Donc, sur cette question démocratique, il y a plusieurs oui, questions en ce sens. Donc, on en revient finalement, en partant des règles budgétaires, à la question de la démocratie européenne. Donc, il me semble que c'est intéressant de revenir sur ce dont vous avez parlé déjà dans votre première intervention.
Oui, et puis il y a une question sur qui décide en Europe ou qui est le patron en Europe. Et donc on revient un petit peu à ça aussi, à ce que disait Sébastien Adalide. En fait, il manque de délibération démocratique en Europe, mais c'est aussi du fait du fonctionnement de nos institutions françaises, puisque une partie des négociations que conduit Dorothée Rouzet au Trésor, de toute façon, même si on n'était pas dans l'Union européenne, ne serait pas non plus publique, parce qu'il y a une partie de négociations techniques qui n'est jamais publique. Je ne sais pas si la Suisse fait des négociations justement avec l'Union européenne sur ses accords. Je ne pense pas que chaque rang de négociation soit public. Mais il manque quand même une étape de délibération. Donc il faudrait que le Parlement européen soit plus saisi, et puis il faudrait aussi que le Parlement français soit plus saisi. Mais ça, c'est le problème aussi de nos institutions. On est dans une espèce de monarchie absolue élective en France. Et donc cette question le montre bien. Qui est le patron en Europe? Il n'y a pas un patron, il y a plusieurs patrons, donc c'est pour ça que c'est compliqué. Il y a la Commission, le Parlement, le Conseil, beaucoup d'institutions, beaucoup de pays. Et alors que nous, en France, là, ce que je veux dire n'est pas une critique ou des louanges envers le président Macron, mais nous, en France, tout est suspendu au président. Voilà. Que va décider le président sur la fin de vie? Que va décider le président sur Israël et la Palestine? Que va décider le président sur l'Ukraine? Bon. Tout est suspendu à lui. Ce n'est pas la question du président Macron, ça a toujours été le cas depuis la Ve République. Bon. Moi, j'ai étudié pour mon livre Europe contre Europe donc plusieurs pays, trois pays principalement, France, Grande-Bretagne, Allemagne. Bon. En Grande-Bretagne, en Allemagne, dans les archives, on trouve des débats parlementaires. Même un pays très centralisé comme la Grande-Bretagne, Margaret Thatcher, quand elle allait au Conseil européen, il y avait un débat avant, un débat auprès au Parlement. Bon, en France, il n'y a rien. Hein. Donc, c'est effectivement, moi je suis d'accord avec Sébastien Dallet, on devrait discuter de ces règles budgétaires déjà au Parlement français, mais il n'y a pas l'habitude d'associer le Parlement à ces discussions en France. Donc, il y a un problème démocratique, mais quand on dit qu'il y a un problème démocratique européen, il faut aussi toujours se poser la question de savoir comment ça se ferait sans l'Europe. Donc, est-ce qu'on en parlerait autant de toutes ces règles-là s'il n'y avait pas l'Europe, puisque les contraintes de marché, elles existent. Enfin, moi, là, tous les débats dont j'ai parlé, j'ai parlé de Pierre Mauroy, les 3%, bon, il y avait des débats au Parlement, mais ça s'est fait aussi beaucoup au sein des ministères, avec les ancêtres, si je veux dire, de Dorothée Rousset au Trésor. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a... et ça aussi, on peut aussi, peut-être, je ne sais pas, le dire lors des élections, il y a un problème de démocratisation qui n'est pas propre aux institutions européennes, qui est aussi le fait déjà de nos pratiques démocratiques. Là, depuis 2022, du fait des élections législatives, on commence à découvrir ce que c'est qu'un Parlement véritablement actif. Là, encore une fois, ce n'est pas un jugement politique, hein, mais c'est plus un jugement institutionnel. Ça nous étonne beaucoup. Là, c'est très compliqué, il faut faire des majorités. Bon, mais c'est ça dans beaucoup de pays hein, où on se demande ce que pense le Parlement. Donc voilà, il y a un travail à faire aussi, nous, sur nos institutions, qui va dans le sens d'une complexité accrue, hein, je dirais, parce que c'est effectivement, l'idée, ce n'est pas de penser qu'une personne peut décider de tout, mais c'est comme ça que fonctionne la délibération démocratique. Et juste un petit élément aussi sur les règles. Voilà, je n'ai pas voulu dire que les règles n'ont jamais existé. Les règles, je pense, ça fournit des repères, un cadre, mais c'est, voilà, les règles, ce n'est pas les radars automatiques. Vous avez une amende automatiquement quand vous enfreignez la limitation de vitesse. C'est plutôt avant les radars automatiques. Avant les radars automatiques, il y avait, si vous étiez pris, vous aviez toujours une marge de négociation si vous connaissiez quelqu'un au commissariat ou à la préfecture. C'est plutôt ça, les règles budgétaires. C'est-à-dire que si vous êtes la France, voilà, vous connaissez quelqu'un à la préfecture, donc on peut vous laisser passer un petit peu plus de choses. Bon, si vous êtes la Grèce, par contre, on vous tape dessus et donc là, on vous impose une austérité très dure. Hein.
Merci. Donc pour revenir... j'ai envie de vous poser finalement une question à tous les quatre et chacun dans votre spécialité. Quelqu'un pose la question donc finalement du retour de l'austérité, vous venez d'évoquer la Grèce, et du fort désaccord du fort impact en fait, qu'a pu avoir historiquement les mesures d'austérité, notamment dans la crise des années 2010, dans des pays européens. Et donc sur cette question, est-ce que finalement, tous autour de cette table, vous avez l'impression qu'il y a eu quand même une rupture dans le paradigme de l'Union européenne? Est-ce que, par exemple, là, je vous pose la question de Dorothée Rousset, dans le contexte des négociations, on sent que l'Europe a appris des erreurs de la crise de 2010 et souhaite passer quand même à un autre paradigme? Elle y parvient ou pas forcément avec cette réforme, mais est-ce que quand même, dans les négociations politiques, dans la volonté politique et dans l'évaluation de la question, on sent une différence, un changement d'esprit ou pas vraiment? Je vous laisse tous...
Alors, ça rejoint beaucoup de choses qu'on a dit. Je dirais, la première réponse, c'est que l'Europe n'est pas uniforme sur le sujet. Donc, je pense qu'au niveau de, je ne vais pas dire consensus européen, mais je dirais de la masse, il y a plus de prise de conscience. Alors, en partie du fait que dans les années 2010, je dirais, on a vécu des choses qu'on ne veut pas forcément reproduire, parce que par ailleurs, hein, on se compare entre Européens, on se compare aussi aux autres. Si on compare la croissance qu'on a eue depuis 20 ans en Europe et aux États-Unis par habitant, on voit quand même qu'on a décroché. Et une partie, c'est qu'on a décroché en termes de productivité parce qu'on a moins innové, on a moins investi, on a moins formé. Enfin bon. Donc il y a aussi toute une partie où, à un moment, on le paye aussi sur le long terme. Et je dirais cet aspect austérité et croissance molle n'est pas un équilibre souhaitable. Alors après, je dirais sur le degré de conviction sur ce point, évidemment, entre vous, mais je ne vais pas, enfin, me disais d'autres, hein, je ne vais pas dire entre la France et l'Allemagne, parce que c'est plus large que ça, que derrière l'Allemagne, en effet, il y a aussi beaucoup d'autres pays, souvent plus petits, mais qui ont des convictions assez proches, qui sont eux-mêmes très attachés aux règles, qui pensent qu'au fond, bah, si on a droit à 3% de déficit, si en temps normal vous êtes à zéro, vous avez 3% de marche, il y a une crise, tout va bien. Bon, c'est pas forcément la conception de tout le monde. Et qui eux-mêmes utilisent les règles, alors qui ont une approche un peu différente, qui eux-mêmes utilisent les règles européennes pour, je dirais, se contraindre en termes nationaux et qui trouvent ça très pratique. Donc. Bon, pour dire, bon, il y a toujours des divergences. Il y aura toujours des divergences parce qu'on est 27 et qu'on est 19 dans la zone euro et que, enfin, voilà, et par définition, je veux dire, les approches sont un peu différentes entre pays en fonction de leur situation. Maintenant, je pense qu'au niveau de où est le centre européen, où est la Commission notamment, il y a eu l'expérience de l'année 2010, mais il y a surtout l'expérience des trois dernières années qui nous a montré, bon. On a dû dépenser pour faire face aux crises, il n'y a pas de question là-dessus, mais qui nous a aussi montré nos fragilités, qui nous a montré que, ben, on savait qu'il fallait accélérer sur la transition écologique, mais au fond, si vous preniez les débats sur les règles européennes d'il y a 10 ans, je ne suis même pas sûre que le mot climat serait apparu, alors que là, c'est central, qui nous a montré qu'on a des dépendances, alors ça a été les masques, puis les médicaments, puis les semi-conducteurs, etc., puis le gaz russe, et que, bon, sur le long terme, c'est pas très souhaitable de se retrouver dans ces situations par rapport à des pays avec lesquels les tensions géopolitiques, et que donc on doit aussi investir dans notre industrie, dans notre tissu productif, qu'on a des enjeux de productivité, donc on doit aussi investir dans notre... Donc, en fait, cette prise de conscience, elle existe et elle est vraiment reflétée dans les positions de la Commission aussi sur d'autres aspects de politique industrielle, d'ambition écologique, etc. Et après, il y a une question de cohérence, c'est-à-dire que si au niveau européen, on se fixe des objectifs climatiques très ambitieux qui sont définis au niveau de l'Union européenne de réduire nos émissions de 55% en 2030, d'arriver au net zéro en 2050, et qu'en même temps, au niveau européen, on se met des contraintes qui nous empêchent d'atteindre ces objectifs, je dirais qu'il y a un petit côté un petit peu délicat pour réconcilier tout ça. Donc, je pense que... Oui, le balancier européen a bougé. Après, tous les pays ne sont pas au même niveau, mais c'est un peu naturel dans la décision 27.
Merci beaucoup. Andreas Hals, est-ce que la pandémie, la guerre en Ukraine, la crise climatique ont été des ruptures, selon vous, nettes en termes de manière d'envisager ces questions budgétaires ?
Pour faire court, je pense que oui. Après, il y avait certaines tendances qui étaient déjà là avant et qui étaient encore mises en avant plus, en fait. Et je pense que, en fait, si on prend la question de est-ce qu'on va retomber sur le même type de question d'austérité qu'en 2010, 11, 12, je pense qu'on est quand même dans une situation différente maintenant de la compréhension, mais aussi d'apprentissage et aussi du rôle des acteurs qui ont changé. Parce que la BCE, c'est la réalité, a simplement pris un rôle différent de fait depuis 2012 qu'elle a eu pendant la crise de la zone euro, en fait, avec voilà, tout le monde connaît on devrait connaître le Whatever It Takes de Mario Draghi de 2012, mais en fait de fait, et ça c'était pas forcément prévu dans les traités, et ça c'est une situation, on est un peu dans le gris de traités, etc. De fait, la Banque Centrale Européenne a un rôle de prêteur de dernier ressort, en fait. Et donc si on redeviendrait dans une situation vraiment, un des États membres dans une situation difficile, sauf si c'est vraiment parce que c'est des choix politiques mais complètement pas compréhensibles, je pense que la BCE ferait quelque chose. Ils ont mis en place aussi cet outil de anti-fragmentation, comment ils appellent ça, mais en réalité, même si maintenant à cause de l'inflation dans une période où on est plutôt dans le quantitative tightening, donc en fait on reprend il y a moins d'efforts, moins de soutien donné par la Banque Centrale Européenne. Si on regarde la situation aujourd'hui, il y a des spreads différents entre les États membres en termes de coûts de taux d'intérêt, mais on n'est pas du tout dans une situation où on avait il y a 10 ans. Et je pense que la BCE a peu d'intérêt de permettre une telle situation. Et là, on a vu avec les outils qui étaient déjà utilisés que c'est possible de faire des choses et pour réagir à des problèmes. Après, là, on revient sur des règles budgétaires dans un contexte qui est compliqué. en fait. Et c'est notamment à cause de la guerre en Ukraine, avec la crise des prix d'énergie, parce qu'en soi, on était sorti de la pandémie avec beaucoup de mesures, en fait, avec un taux de croissance plutôt bien. Et en fait, revenir sur des règles budgétaires où on devrait faire la consolidation dans une situation de croissance économique forte, voilà, c'est beaucoup moins un problème et c'est beaucoup moins ce que j'appellerais l'austérité, parce que pour moi, il faudrait aussi faire un peu la distinction entre austérité en termes de simplement dire qu'on consolide le budget. Moi, je pense que je ne dirais pas ça. Mais si, en fait, on fait l'austérité dans le sens qu'on prend des mesures budgétaires qui, en effet, très négatives sur l'économie, en fait, finalement. Et c'était un peu le cas, en fait, ce qu'on a fait en 2010-2011, en fait. Et il y avait quand même un apprentissage aussi dans la commission que si tout le monde fait l'austérité, en fait, ça ne marche pas du tout, en fait. Et même en termes d'investissement privé, il y avait, c'était une grande leçon de cette période-là. Mais on a quand même maintenant dans une situation où la BCE a dû beaucoup augmenter le taux d'intérêt. On revient sur des règles budgétaires dans une situation de quasi-récession dans certains États membres ou proche à une récession où les taux d'intérêt aussi augmentent beaucoup, qui a un effet dans le moyen terme sur le coût de le service et la dette. Et même si c'est évoqué que, voilà, aujourd'hui, la France n'a quand même pas non plus une situation qui était pire qu'il y a 30 ans, c'est quand même quelque chose qui crée de la pression supplémentaire, en fait, sur le budget et va quand même créer certaines difficultés et de choix difficiles dans le contexte où on reviendra sur des règles budgétaires. Donc ça, c'est sûrement à voir dans ce contexte-là.
Merci beaucoup. Sur cette question de y a-t-il eu un apprentissage, que ce soit vis-à-vis de la crise de la dette en 2010, de la pandémie, du climat, est-ce que vous notez également un changement, et un changement chez qui, puisque vous posez la question de s'il y a flexibilité, qui pilote, entre guillemets, cette flexibilité? Donc si vous pouvez revenir sur cette question et sur la première.
Alors, sur la première. Comme vous l'avez dit au début, hein, je suis en Normandie, donc je vais faire une vraie réponse de Normand sur l'apprentissage. Je vais vous dire oui, peut-être, et non. Oui, parce que ça a été dit, en effet, par André Slezel, Dorothée Rouzet, les questions de transition énergétique, d'investissement de caractère procyclique, tout ça, aujourd'hui, est au cœur du raisonnement de la Commission, donc à l'évidence. Peut-être parce que je crois que tout va se jouer en réalité dans les quelques années qui viennent, quand le plan de relance arrivera à échéance et qu'il faudra rembourser la dette collective. Puisque, lorsque, en plein cœur de la pandémie, on prend la décision d'un plan de relance, alors 600 milliards d'euros, si je ne dis pas de bêtises, ou 500, j'ai un doute maintenant. Mais bon, peu importe, une somme considérable. Pour la première fois, la Commission emprunte sur les marchés. Elle avait déjà emprunté avant, mais de manière très très limitée. Donc bref. Quand les financements ne seront plus disponibles pour les États, première étape, et deuxièmement, quand il faudra rembourser la dette, là, on sera un vrai tournant. Et de voir comment ces étapes-là sont gérées, est-ce que... Voilà. Donc, et avec, derrière tout ça, un débat qui est technique, mais en réalité fondamentale, c'est celui des ressources propres. C'est-à-dire, est-ce que l'Union européenne peut avoir ses propres impôts? Elle en a déjà. Il y en a déjà qui sont en cours de création. Donc voilà. Ça, c'est le peut-être sur cette idée que le tournant, il est peut-être à venir, et de savoir en réalité si l'étape symbolique du plan de relance, on s'endette en commun, elle sera pérennisée ou non. Voilà, à mon sens, le peut-être, il est là. Sur le non, c'est que, qu'est-ce qui, alors encore une fois, je reviens toujours à la même chose, mais qui était problématique, à mon sens, dans ce qui s'est passé dans la crise de la dette, c'est ce qu'on appelle la conditionnalité, c'est-à-dire de dire, on va vous aider si vous respectez nos critères. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis 2010, on a une généralisation de la conditionnalité. Quand est voté le plan de relance, est voté en même temps un texte sur la conditionnalité politique. C'est-à-dire qu'il dit tout simplement, si vous ne respectez pas l'état de droit, on ne va pas vous donner l'argent qu'on vous propose. À mon sens, on a là la confirmation de cette tendance généralisée de l'Union européenne de réduire tous les enjeux politiques à une question technique. Le débat s'est fait avec la Pologne et avec la Hongrie. Parce que le problème avec la Pologne et la Hongrie, c'est même plus un problème politique, c'est un problème philosophique. La démocratie libérale est une conception des sociétés contemporaines fondamentalement différente des nôtres. Donc on essaie de confronter un débat même plus politique, à mon sens métapolitique et philosophique, en leur disant « on ne va pas vous donner l'argent qu'on vous doit ». Je crois que là, on n'a pas appris. Parce qu'au contraire, on généralise une technique
qui a été problématique démocratiquement, économiquement, à des questions qui nous dépassent assez largement et qui, en plus, ne font que faire le jeu de ces partis-là, là où ils sévissent.
Merci beaucoup, Laurent Verlouzet, sur cette question. Y a-t-il un changement de paradigme dans la manière d'aborder ces questions?
Un petit peu, oui. À Bruxelles, on dit parfois que l'Europe devient plus française, puisqu'on parle plus de politique industrielle, de flexibilité des règles budgétaires. Bon, je pense qu'il y a eu un apprentissage quand même collectif des erreurs, le fait de l'austérité infligée à la Grèce, qui était, bon, disons, socialement, politiquement, je dirais, immorale, et puis qui était aussi économiquement contre-productif, puisque, bon, même les économistes néolibéraux, disons, américains, considéraient que c'était pas forcément illogique de... à quelqu'un qui est très, très endetté, très surendetté, d'aider massivement au début plutôt que de laisser pourrir la situation. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est les aspects aussi contracycliques. Vous avez commencé à en parler un petit peu, mais le contracyclique, c'est aussi au niveau des États, c'est-à-dire que les règles budgétaires, d'un côté, les États en déficit doivent faire des efforts, mais d'un côté, les États en excédent ou, disons, très peu en déficit, doivent aussi faire des efforts pour soutenir la conjoncture. Et ça, c'est des discussions anciennes, hein, depuis les années 70, on en parle. En 78, on appelait ça la locomotive, on avait fait un grand plan de relance. La locomotive, c'était l'Allemagne et le Japon qui devaient relancer et tirer les pays dont j'ai parlé tout à l'heure, l'Italie et la Grande-Bretagne, qui étaient très en déficit, qui avaient dû aller au FMI. Puis nous, on était un peu entre les deux, on était moyennement bien gérés. Bon, voilà. Donc on était dans les premiers wagons. Et ça, c'est une idée qui a été beaucoup évoquée, la crise de l'euro. Ça n'a pas été fait. Et là, peut-être que ce serait un petit peu moins problématique aujourd'hui. Donc ça, c'est un des enjeux, effectivement. Est-ce que l'Europe devient plus française, ou disons plus ouverte, en tout cas, ou plus plurielle? C'est un des enjeux des élections de juin 2024.
Merci beaucoup. Donc c'est une très belle conclusion de cette discussion absolument passionnante et qui nous permet d'être, je pense, un peu plus armés vis-à-vis de ce débat très d'actualité, hein, puisque c'est en cette fin d'année que les États membres discutent de cette réforme. Donc je vous remercie à tous. Je vous remercie tous d'être venus ce matin aux Aurores parler des règles budgétaires européennes, et je vous remercie à tous, tous les quatre. Merci beaucoup pour cette discussion vraiment passionnante.
Écogéco, vous venez d'écouter un épisode du podcast des Journées de l'économie. Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à laisser une note au podcast, vous abonner, commenter et partager sur vos réseaux. Retrouvez-nous sur Twitter, Instagram, Facebook, et sinon, rendez-vous directement sur notre site internet journeeeconomie.org. Merci pour votre soutien!